José Moselli, le monstre. Je sais que le récit que je vais rapporter sera traité de fable par nombre de personnes, mais cela ne m'impressionne pas, d'abord parce qu'il n'est que l'expression de la vérité, et ensuite parce que la moquerie se retournera pour tout homme intelligent contre ceux qui me l'auront décoché. N'est-il pas ridicule et absurde, en effet, nier un fait parce qu'il sort des limites de l'ordinaire? N'est-il pas contraire au bon sens et à la réalité de croire la faible science humaine parvenue à la limite des connaissances possibles et d'imaginer qu'elle n'a plus rien à nous apprendre, ni à découvrir. Quoi qu'il en soit, je vais raconter fidèlement et simplement ce que j'ai vu et ce qui nous advint à mon infortuné camarade Edward Douglas et à moi au cours de notre voyage sur les côtes de Norvège. Ce voyage à bord du brick Goethe, le Dumbarton, un beau voilier pourvu d'un moteur auxiliaire de pétrole, avait un but scientifique consistant dans la détermination des courants qui règnent sur les côtes du nord de la Scandinavie et de leur liaison avec ceux du large de l'océan. Et nous devions aussi nous livrer à des observations astronomique et surtout météorologique. Le personnel de l'expédition, outre l'équipage du brick, comprenait 8 personnes, parmi lesquelles j'étais le seul Américain, les autres étant tous Anglais. Mais comme nous avions équipé le navire à nos frais, avec nos deniers, nous pouvions nous livrer au plaisir de la chasse, de la pêche et surtout des excursions dans les fjords de Norvège nous offraient une inépuisable mine. Celle de Resolf, appelée aussi Bay ou Creek de Norden, est un des plus curieux. Profond de près d'une lieue, encaissé entre de hautes murailles de rochers à pic qui atteignent parfois une hauteur de plus de 150 mètres, ils présentent rarement une largeur maxima de 100 mètres parfois. Et ils se rétrécissent au point que deux barques n'y seraient passées de front. Mais ce qu'il offre surtout de curieux, c'est qu'à son extrémité, il se continue sur une immense caverne marine, en tout semblable à la partie que je viens de décrire, sauf qu'il règne une voûte continue et élevée, parfois tellement que la lumière des lampes électriques ne la découvre pas. Cette caverne mesure plus d'un kilomètre de long. Puis soudain, le plafond de roche s'abaisse et atteint le niveau de l'eau. Impossible à l'air d'aller plus loin. Mais les gens du pays, nous avait-on dit, étaient convaincus qu'au-delà, il y avait un lac souterrain où personne n'avait jamais pénétré. Ce n'était là qu'une hypothèse, mais elle nous intéressait vivement, car nous étions tous plus ou moins géologues. Depuis une huitaine que le Dumbarton était mouillé à l'entrée du fjord, mon inséparable ami et compagnon Douglas et moi avions fait, dans le petit canot du bord, plusieurs excursions dans cette curieuse grotte, sur les parois de laquelle nous avions récolté ample moisson de coquillages assez intéressants. Mais toujours, nous avions été arrêtés par cette maudite barrière de rochers. Or, un matin, par la marée basse, nous partîmes à nouveau pour une dernière promenade. Le brick devait appareiller le lendemain. Nous emportions quelques engins de pêche, des lignes, des filets, les éléments d'un modeste déjeuner et nos fusils de chasse, dans l'espoir de tirer au retour quelques oiseaux de mer. Quand nous eûmes pénétré au fond de la caverne, en nous amusant des résonances étranges qui déterminaient le bruit de nos voix et les jeux de la lumière électrique sur les parois brillantes de salpêtre et tapissées de stalagmites, nous eûmes une surprise. Une sorte de chenal, large d'environ 3 mètres et haut de 5, se découvrait dans la paroi rocheuse, limitant la cavité. Et ce chenal n'y existait pas la veille, de cela nous étions absolument sûrs. Et le rapide examen des lieux nous dévoila la cause du phénomène. Un énorme roc, bloc, s'était détaché et avait disparu dans l'eau. Et c'était à la place qu'il occupait auparavant que s'ouvrait le canal. Nous approchâmes curieusement de l'entrée et la lueur de nos lampes nous montra autant que nous pouvions nous en rendre compte, les habitants de la côte disaient vrai. Il y avait au-delà une deuxième caverne, comme la première, pleine d'eau, mais dont nous n'apercevions point le fond, malgré la puissance de nos luminaires. Mon ami et moi, nous nous consultâmes du regard, puis, sans rien dire, en 2 coups de rame, nous traversâmes le passage qui n'avait pas plus d'une dizaine de mètres de longueur. L'instant d'après, nous voguions lentement sur une immense nappe d'eau que presque certainement des êtres humains n'avaient jamais parcourue. Elle était bien plus vaste que la première, et j'évaluais à 50 mètres au moins la hauteur moyenne de la voûte, avec une largeur d'au moins 500. Nous admirions en silence, donnant de temps en temps un coup d'aviron pour entrer plus avant dans cette mystérieuse retraite. L'eau y était complètement immobile. Pas un souffle de vent n'agitait l'air. Que, au bout de quelques minutes, nous commençâmes à trouver lourd et difficilement respirable. Le silence était complet, si écrasant, qui ne tarda point à nous sembler pénible, et une vague terreur contre laquelle nous luttions en vain nous envahissait. Si pourtant un nouvel éboulement fermait l'étroit boulet par lequel nous étions venus, quel sort abominable serait le nôtre ? Retournons, voulez-vous ? Me dit à mi-voix mon ami. Ses yeux frémissaient à son insu, et à la lampe électrique tremblait légèrement dans sa main. Je repris les avirons pour faire demi-tour et virer la barque. Mais au même moment, une sorte de râle étouffé, que je ne devinais pas tout de suite, sortit de la gorge de mon compagnon, m'arrêta. Je vis Douglas, les yeux dilatés par l'épouvante, fixer un point à sa droite et regarder, je regardais aussi de ce côté. Juste ciel, murmura-t-il, qu'est-ce que cela? Cela était une bête monstrueuse, fantastique et invraisemblable, qui apparaissait en plein dans la lumière de notre lampe, nageant lentement à la surface de l'eau. Ce que nous en apercevions peut se décrire ainsi. La tête était un peu celle du rhinocéros, mais trois fois plus grosse, avec trois immenses cornes recourbées au lieu d'une. De plus, le front et les tempes étaient garnis d'espèces d'écailles épineuses, brunes et brillantes, que l'on retrouvait également par plaques sur le corps. De ce corps, que dirais-je, ce qui en émergeait était formidable. C'était en somme par la forme, celle du rhinocéros, mais amplifiée de façon à atteindre au moins 11 mètres de long, non compris le crâne qui en comptait au moins deux. Des touffes de poils d'un roux sale s'étalaient çà et là sur la peau noirâtre, et derrière, une toute petite queue frétillait en l'air. Détail qui ne me frappa que plus tard, je crois pouvoir affirmer qu'il n'existait aucun appareil de vision, pas trace d'yeux, ni de paupières. Nous restions là, assis sur nos bancs de vache, médusés, brandissant nos lampes d'une main mal assurée. Je me souviens avoir fait un mouvement pour saisir mon fusil, mais l'absurdité de ce geste m'apparut aussitôt. Une carabine à éléphant elle-même n'aurait pas, j'en suis convaincu, eu raison de ce monstre. Que pouvaient nos malheureuses charges de plomb, sinon le mettre en fureur? Il glissa lentement, sans le moindre bruit, à la surface des flots. Évidemment, il savait que nous étions là, qu'auprès de lui se tenaient des êtres qu'il ne connaissait point. Mais quel sens subtil et ignoré lui révélait notre présence, je ne saurais le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il tournait autour de la barque, de même qu'un tigre, par exemple, rôde en cercle à quelques mètres d'une proie, sur laquelle il n'ose bondir, de crainte qu'elle ne cache un piège. Puis, tout doucement, la gigantesque masse vira et s'avança. Nous étions glacés, incapables de faire le moindre mouvement, d'articuler un seul mot. Mon ami, cependant, laissait entendre, sans s'en douter, une sorte de plainte continue, et il semblait réellement que Le canot en était agité. Tac! La tête apocalyptique de la bête n'était plus qu'à la distance de dizaines de pas quand Douglas se redressa soudain et poussa un cri strident qui me fit bondir sur mon banc, puis il tomba à la renverse en faisant du même coup chavirer la légère embarcation. L'eau me submergea. Et quand d'un vigoureux coup de talon, je revins à la surface, je ne vis plus rien. Tout était fini. Toutes les lampes étaient naturellement éteintes. Alors, je ne sais plus guère ce qui s'est passé. Et je crois que la terreur dut quelque temps oblitérer mes facultés. Peut-être certaines personnes estimeront, alors que je ne suis pas d'une vaillance ni d'un sang-froid hors ligne, mais il faut avoir passé par là pour porter un jugement. L'instinct dut me ramener à l'issue vers laquelle m'avait guidé une vague lueur, et là, épuisé de fatigue et d'émotion, je réussis à me hisser sur une saillie de roc où je restais cramponné jusqu'à ce que quelqu'un, un canot envoyé par le capitaine de Barton, qui était de mon absence prolongée, me recueillit. Du monstre et de Douglas, nul vestige. Le premier avait disparu, le second s'était noyé. Il ne retrouva jamais son cadavre. Maurice lui-même fut accueilli avec une incrédulité à peine voilée, et je vis bien que ma conduite était sévèrement jugée. Je sus que des commentaires désobligeants en avaient été faits. Et je quittai l'expédition peu après pour gagner l'Allemagne, où j'avais assez de nombreuses relations dans le monde scientifique. Et c'est là qu'un savant des plus distingués, M. M., m'apprit que l'animal aperçu dans la caverne avait bien existé autrefois, à une époque contemporaine de celle du fameux Diplodocus. La science l'avait classé sous le nom de Stetrasops. Mais il avait toujours été considéré comme un animal terrestre et non aquatique, ni même amphibie. Quant à expliquer sa présence dans la grotte, à quoi bon se lancer dans un champ immense d'hypothèses? Monsieur M., fort intéressé, fit même, je le sais, le voyage de Lesbos dans l'espoir d'apercevoir le monstre, mais en vain. D'ailleurs, d'autres lacs accessibles continuent celui où j'avais pénétré. Et malgré tous les doutes et les démentis, J'ai vu, et je suis sans doute le seul homme au monde qui s'est trouvé autrement qu'en rêve, en présence d'un des formidables représentants des espèces disparues.